France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a quelques années, peut-être 3 ou 4, je ne sais plus, nous avons fait un téléphone sonne qui s'appelait « Peut-on encore se rencontrer sans les applis ?» Peut-être même d'ailleurs à la même époque, évidemment, la fête de cette année Valentin. C'était encore l'époque florissante des applis, la révolution du monde de la rencontre amoureuse. Vous ne pouviez pas croiser un couple sans qu'il vous explique qu'il s'était rencontré sur une appli. Et pendant au moins 10 ans, on a swipé, on a liké, on a matché, youpi pour une rencontre et plus si affinité ou un plan cul très bien assumé. Et puis après le Covid, moment de téléchargement maximum, grosse fatigue. Les applis sont en train de se prendre des râteaux. D'après The Economist, le nombre de téléchargements a chuté de 20% entre 2020 et 2023. Se vendre en permanence comme un entretien d'embauche, se faire ghoster, donc plus jamais de nouvelles, tous les 4 matins, un algorithme qui choisit pour vous comme sur catalogue. Et puis finalement, tout le monde adore le cinéma et les pizzas, jolis sourires et photos de vacances à Bali sur le profil. Et à la fin, c'est pas du tout la même chose. Et chacun qui laboure l'appli pendant des heures, à la fin, bof. Au début donc c'est grisant et puis c'est déprimant parfois, voire dangereux, et nous y viendrons. Et vive la vraie vie, alors c'est ça les vraies rencontres, à la machine à café, dans une soirée, chez les copains. La tendance se dessine doucement, mais attendez, pas trop vite. La vraie vie c'est compliqué pour tout le monde, et l'appli c'est comme la glu. Beaucoup d'entre vous, vous nous le raconterez peut-être, l'ont désinstallé, et puis réinstallé, et puis désinstallé, et puis réinstallé encore. Vient surtout aujourd'hui l'IA qui peut traiter toute seule les profils et aussi commencer à papoter pour vous avec ceux ou celles qui matchent, ce qui n'exclut pas le fait que ce papotage en début se fasse entre deux IA, la vôtre et la sienne, donc sans vous, sans lui, sans elle. Tout ça laisse très songeur. De quoi surtout se demander ce qui rend les rencontres si difficiles, au fond, ce qui rend si compliqué de se parler, d'essayer de se connaître au point que l'on confie cette tâche à une machine. Qu'est-ce qui terrorise, qu'est-ce qui paralyse dans la relation amoureuse? À la fin, comment on fait pour se rencontrer en 2025? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Cédric, vous êtes à Rennes et vous êtes le bienvenu. Bonsoir Cédric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Et du coup, je suis d'accord avec tout ce que vous dites au départ. Et donc oui, en effet, c'est très compliqué aujourd'hui. Moi, je suis passé en 2019 sur les applis de rencontre après ma séparation avec la mère de mes enfants. Mmh. Et du coup, j'ai connu une relation longue avec quelqu'un sur Mythique, pour le coup. Alors, je sais pas si on doit citer des sites.
Oh, pff, à ce stade, c'est pas grave.
Ouais, ok. Bah, après, j'étais passé sur Tinder avant et ayant vécu autre chose sur un an avant. Mais voilà, c'était plutôt sympa, parce que voilà, pour rencontrer d'autres personnes, en effet, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de rencontrer des gens.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'essaye plus, Cédric, en fait? Moi, je me posais cette question, vous venez de vous séparer, ce sont des choses qui arrivent, et donc dans les premiers mois, j'imagine pas grand-chose, et puis après, on se dit qu'on se remet, pardon, je vais le dire comme ça, on se remet sur le marché. Le réflexe, désormais, c'est de s'y remettre par une appli, ou est-ce qu'on essaye avant la méthode classique, si je puis dire, la machine à café, le bar, et puis finalement, on se dit, bon, tant pis, je vais sur l'appli, parce que finalement, c'est plus simple?
Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, parce que c'est compliqué, vie ma vie, vie que j'ai une garde partagée, vie que... oui, en effet, c'est pas simple. Donc oui, en effet, ça passe par là, aujourd'hui. Et que là, je vois que c'est de plus en plus dur, en fait. Oui, je vois que c'est même en envoyant, en effet, en prenant des râteaux, en envoyant des messages, même s'il y a un match, bon... Ben, c'est comme ça.
On prend aussi des râteaux numériques et c'est la vie, Cédric. Merci beaucoup pour votre entrée en matière. Merci de votre participation au téléphone sonne pour discuter autour de ce sujet. Et jusqu'à 20h, il y a Judith Duportail. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante. Vous êtes autrice de Dating Fatigue, Amour et Solitude dans les années 2020 aux éditions de l'Observatoire. Et Thibault Lambert est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Vous êtes producteur du podcast Code Source.
Tout à fait.
Vous avez écrit ce que Grindr a fait de nous chez Jean-Claude Lattès. Cette année, en 2025.
Tout à fait.
Grindr, c'est le Tinder pour la communauté LGBTQIA+.
Et surtout à destination des hommes queer, plutôt.
Et c'est vrai, à destination surtout des hommes queer. Moi, ce que je trouve intéressant, d'abord deux choses, Judith Duportail, d'abord peut-être dans le message de Cédric. Tant pis, il a cité, donc on va y aller. Il commence sur Mythique, il a fait des passages Tinder. Est-ce qu'il y a un... Et aujourd'hui, qu'il y en a tant, aujourd'hui, que ça devient plus compliqué, un âge où on va sur certaines, un âge où on va sur
d'autres. Oui, bien sûr. Après, il faut savoir que Mythic, Tinder, Plenty of Fish, Inge, enfin, pour ne que citer qu'elles, elles appartiennent toutes à la même entreprise. Donc, c'est plusieurs, on va dire, sous-marques d'une même entreprise. Moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage de Cédric, c'est que je pense qu'on est beaucoup à se retrouver dans l'idée qu'au début, il y a eu un peu d'espoir avec l'entrée en matière de ces outils. L'espoir peut-être d'un peu de liberté ou de confidentialité ou de sortir de ces cercles. Et combien ces espoirs ont été douchés. Et aujourd'hui, comment on est tous un peu, je crois, en tout cas ceux qui sont encore, moi je peux plus y mettre les pieds.
C'est vrai.
Mais en tout cas,
vous êtes sevrés
totalement. Ah ouais, totalement, ouais. Dans ce cauchemar, enfin, épuisé en fait, ouais. Ça nous a broyés. Parce que rencontrer quelqu'un, en fait, c'est quand même une des choses les plus belles et précieuses de notre existence. Et le fait qu'on ait confié, mais sans même s'en rendre compte, collectivement, cet aspect de notre existence à ces acteurs qui sont affreusement cyniques. Hein, vous l'avez dit, maintenant, c'est des espaces carrément dangereux.
Ouais. On va y venir à ça.
On va y venir, ouais. C'est quand même. En fait, c'est très grave, en fait, ce qu'ils nous ont dérobé. C'est ça que j'essaie, c'est ce que je dis dans mes livres, c'est que c'est très grave. Et le plaisir, la joie de la rencontre, de la séduction, etc. Eh bien, le fait que ça passe maintenant par le fait de devenir un objet et de se prendre une multiplicité de râteaux, parce que tout le monde, on se prend une multiplicité de râteaux, à une échelle industrielle, ce qui nous fragilise tous, eh bien, ça a des conséquences immenses, en fait, sur la société.
Et c'est fou parce que pourquoi c'est si dur, Thibault Lambert, de prendre un râteau quand, après tout, on n'a jamais croisé la personne ? Pourquoi c'est tout aussi dur que... Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup plus dur de se prendre un râteau dans la vraie vie, parce qu'on se le prend en face. Après tout, un râteau numérique.
Je pense qu'un râteau numérique, c'est la suite des autres râteaux numériques. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en prend pas qu'un, on s'en prend beaucoup, parce qu'on arrive sur les applis, et je prends celle que je connais, par exemple Grindr, avec tout un tas de critères, finalement. Parce que l'offre est tellement grande que, finalement, on se barre d'un peu de critères, déjà, parce qu'on veut être sûr de pas répéter des expériences passées où on aurait pu être déçu de la rencontre qu'on a fait. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, finalement, si on répond pas aux critères, on est très vite sanctionné. Et je pense que c'est l'effet d'accumulation qui déçoit. Et je pense que ça dépend aussi de la trajectoire personnelle de chaque individu. C'est-à-dire que si on est déjà une personne à la base vulnérable, pas sûre d'elle, et qu'on est exposé sur les applications de rencontre à ce qui nous apparaît comme des espèces de normes, en fait, des normes d'apparence, des normes de recherche, des normes de comportement.
Ouais, vous avez dit si on répond pas aux critères. Donc
si
c'est vraiment une question
critères,
de normes.
Ouais. On peut très vite se sentir à part, pas normal, pas digne d'être aimé. Ça impacte les estime qu'on
sûr.
A de soi.
Mais c'est même pas une sensation. Ouais. Parfois, c'est écrit noir sur blanc. Par exemple, si tu fais ce que racontent beaucoup les hommes hétéros, c'est qu'ils lisent je ne sais pas combien de profils disant si tu fais moins d'1m80, dégage, enfin des choses quand même qui sont assez brutales. Et quand on les lit 200 fois, au bout d'un moment, forcément, ça impacte. Et dans la vraie vie, en fait, on a quand même cette possibilité de dépasser cette première impression qu'on fait, qu'on produit avec son poids, sa taille, son, je sais pas, ses yeux. Sur les applications de rencontre, on est privé de ça. Et je pense que c'est ça qui fait mal aussi dans les râteaux numériques, c'est le fait de sentir qu'on est qualifié sur quelque chose d'aussi, mais d'aussi ridicule en fait, d'aussi vain, d'aussi vide.
Mais du coup, Thibault Lambert, pourquoi on se fait mal ? Parce qu'on peut la désactiver, l'appli.
Alors, pourquoi on se fait mal ? Moi, j'ai un élément de réponse pour la population LGBT.
Parce que vous, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est à vous que j'ai piqué cet exemple-là dans l'intro. Vous avez installé, désinstallé.
Oui, pendant très longtemps. Mais par exemple, moi, si je prends ce que je connais, c'est-à-dire les personnes queer, les personnes LGBT, c'est pas facile de faire des rencontres dans la vraie vie. Et c'est pas pour rien que, en fait, dès les années 2000, les sites de rencontres, parce qu'avant les applis, il y avait les sites de rencontre, c'était le premier mode de rencontre. Parce que c'est pas forcément évident statistiquement de se connaître par le jeu des connaissances. Et en fait, pourquoi...
Dans la communauté queer, c'est culturel, en fait, vous dites, le site ou l'appli, en fait, beaucoup plus que chez les hétéros.
Bah, par exemple, oui. Enfin, en tout cas, je sais que, par exemple, Grindr, déjà, en plus, sur Grindr, la promesse, c'est pas forcément de trouver l'amour, c'est de faire des rencontres rapidement. Donc, en fait, on n'y va pas forcément avec la même intention. Et donc, on y retourne parce que finalement on se rend compte que les possibilités dans la vie sont pas infinies. En plus, si on est hors des villes, c'est encore pire. Et puis, c'est pas toujours évident. On peut pas toujours présumer de l'orientation sexuelle de quelqu'un. Donc, en tout cas, c'est ce qui pousse souvent à y retourner. Ouais.
Parce que ça veut dire qu'au début, pour le coup, pour vous deux, en fait, c'est presque rassurant, c'est plus facile et c'est sécurisant. Et c'est peut-être ça la douche froide, en fait, Judith Duportail, pour ce qui vous concerne. On croit que c'est plus sécurisant et puis finalement pas du tout.
Oui, on croit surtout peut-être échapper à un certain, en tout cas pour parler des femmes hétérosexuelles, à un stigmate, j'ai employé un mot vulgaire à dessein, le stigmate un peu de la putain, de dire voilà, on va peut-être pouvoir faire des rencontres en dehors de son cercle, on va peut-être pouvoir même faire des rencontres légères, ou pourquoi pas tomber amoureuse, enfin, les champs des possibles sont ouverts.
On a le droit de penser que ça peut désinhiber, que
exactement,
ça peut décoincer.
Et en réalité, en fait, on rentre dans un parcours extrêmement codifié de date, voilà, où il y a quasiment pas le droit à la fantaisie, et où finalement les incivilités sont très grandes, les phénomènes de ghosting, ou même de maltraitance, ou de...
Le ghosting, ouais, c'est marrant, le ghosting c'est quand on répond jamais.
C'est quand on disparaît sans jamais.
Quand on disparaît, mais alors moi qui suis vieille, le nombre de fois où on m'a jamais rappelé, sans passer par une appli, ghosting dans la real life, ça marche aussi. Ça
bien sûr,
aussi.
Bien sûr, évidemment, les applications de rencontre n'ont pas inventé les goujats ni l'incivilité.
Exactement.
Amoureuse. Mais en réalité, quand même, elles les ont, on va dire, amplifiées. Ça, en tout cas, c'est vraiment ce qui est dans la bouche de toutes les personnes avec lesquelles vous pouvez échanger. Aujourd'hui, le phénomène se vérifie. Hein. Bumble vient de licencier 30% de ses effectifs. Tinder, c'est 10%. Il y a quand même une gueule de bois massive.
Allez-y,
pour répondre à ce que vous disiez, Fabienne, depuis le début, on fait un peu une opposition entre la vraie vie et les applis, le numérique. Moi, ce que je raconte, par exemple, dans mon livre, c'est qu'il y a quelque chose qui est très fréquent dans un bar gay, c'est que les gens, ils sont dans un bar gay, donc possiblement un lieu où on fait des rencontres.
Avec leur téléphone à la main.
Ils ont Grindr. Ouais. Pour regarder si, en fait, qui sont les gens dans le bar, les approcher d'abord, leur écrire. Et ça, ce que ça dit, c'est que Grindr, les applis, c'est aussi une sécurité émotionnelle. C'est une béquille. C'est pour avoir une préconfirmation, en quelque sorte, qu'on plaît à quelqu'un et ne pas se prendre un râteau si on va le voir après. En quelque sorte, c'est un jeu de regard, mais confirmé, plus sécurisant.
Ça veut dire qu'on ne sait plus se rencontrer classiquement au bar de ce bar gay dont vous parlez, par exemple, sans avoir... Est-ce qu'on a désappris ?
Alors, je parlais de ce constat-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on a désappris ? Moi, il y a un sociologue dans mon livre qui m'a dit en fait, ce qu'on a perdu avec les applis, c'est la capacité de rentrer dans un bar et d'être à l'aise tout de suite. Ça, moi, de mon vécu, je peux pas témoigner, et ça, c'est lui qui peut le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que il y a une peur du rejet qui, à mon avis, est très forte, très 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 présente. Et peut-être est-ce qu'elle est due au fait qu'on se fait beaucoup rejeter toute la journée sur les applis et que du coup, on se replie un petit peu finalement on se replie un peu sur nous-mêmes et on cherche une preuve, une vraie confirmation que quelqu'un nous plaît avant d'entamer les discussions.
Il y a aussi un phénomène qui est en dehors de celui des applications qui est très important, c'est aussi la remise en question du couple de manière générale par les jeunes générations, dû aussi grâce au travail des féministes pour décentrer aussi l'amour romantique. Et parfois, je pense que c'est pas forcément qu'on ne sait plus se rencontrer, mais c'est peut-être aussi qu'on a envie de prioriser d'autres relations, que ce soit les relations amicales, les relations intellectuelles, enfin je sais pas, ou les relations platoniques, ou les relations avec sa famille, ou même avec les enfants de ses amis, les animaux, que sais-je, la nature, l'engagement politique. Enfin, c'est quand même la résilience qu'on a eue collectivement, c'est de se dire, ok, peut-être que c'est une boucherie maintenant, le dating, moi je considère que c'est une... En tout cas, dans ma vie personnelle, ça a été
j'ai bien compris
boucherie.
Que ça a été traumatisant chez vous.
Et je suis loin d'être la seule. Et bien du coup, on réinvente aussi peut-être une façon de tisser des liens, de faire, de créer de la sécurité, de la fantaisie, de l'amour en dehors de ce cadre.
Retour au standard avec vous, Magali, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je suis pas encore dépitée par ces applications de rencontre. Hein. Voilà, quand je me suis séparée, quand j'ai divorcé, eh bien, j'ai utilisé ces applications de rencontre pendant 3 ans. J'ai dû faire une centaine de dates. Donc voilà, je suis une éternelle optimiste et je me dis que ça va marcher. Et puis, un jour, je rencontre une personne, il y a un petit jeu de séduction. Et le lendemain, le premier profil présenté par mon application de rencontre, c'était lui. Donc là, ça a été vraiment le coup de chance parce que ça a donné une belle histoire pendant 2 ans et demi. Voilà, alors maintenant, ça s'est terminé. Donc, me revoilà sur les applications de rencontre. Alors, effectivement, c'est chronophage. Effectivement, des fois, c'est un peu désespérant et on a tendance à faire une pause ou à désinstaller. Mais il y a aussi des très bons moments. Il peut y avoir des discussions qui vont être juste sur une soirée et qui vont être agréables et sympathiques et qui donneront pas forcément lieu à une rencontre derrière, mais qui m'aura permis de passer un bon moment.
Et Magali, j'ai envie de vous poser la même question qu'à notre auditeur tout à l'heure. Est-ce que, dès que vous vous êtes séparés, vous vous êtes dit « bah maintenant c'est comme ça qu'on fait, donc je vais sur l'appli » ou est-ce que vous avez essayé à l'ancienne, comme vous aviez rencontré probablement votre premier compagnon avec lequel vous êtes resté visiblement plus longtemps, et puis vous vous êtes dit « bah l'ancienne ça marche plus, donc j'y vais ». Ça a été quoi la démarche? Ou alors est-ce que c'est vos enfants, j'en sais rien, ou votre entourage qui vous a dit « va sur les applis, c'est trop bien ».
Alors, à ce moment-là, c'était simple. J'habitais dans un village de 350 habitants.
Ok, je vois bien.
J'avais mon boulot et la garde de mes enfants.
Oh ouais.
Donc, une disponibilité limitée.
Mm-hmm.
Voilà. Maintenant, bah, j'habite dans une ville de 30 000 habitants. Je sors, je fais des activités, je fais de la musique, je vais à des concerts, je vais dans des bars. Voilà, j'ai essayé les balades canines, j'ai essayé les groupes de randonnée. Je lis Charles Pépin pour être en forme. Et avec tout ça, et ben, je suis encore sur les applications de rencontres. Et je me dis, bon, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la vraie vie ou pourquoi pas une application, j'assume tout à fait le fait d'être sur les applications de rencontres.
Merci beaucoup Magali. Moi, ce que je trouve incroyable, et c'est vraiment nos deux premiers auditeurs, Judith Duportail, c'est qu'en effet, désormais, le réflexe est là.
Oui.
C'est vraiment quelque chose, comme si on n'essayait même plus, en fait, de se rencontrer différemment. Il y a une dame ici qui dit, la machine à café, croyez pas que c'est si facile, la machine à café, je la crois sur parole, hein, c'est compliqué dans toutes les machines à café de toutes les entreprises, mais comme si c'était, comme au fond c'était, si c'était le passage obligé, quitte à ce qu'on s'en aille après en fait, alors dégoûté comme vous ou pas, mais comme s'il y avait ce passage obligé.
Bah déjà je veux dire bravo quand même, quel mental d'enchaîner les 100 dates et puis de rester optimiste et positive, j'ai beaucoup d'admiration. Non, évidemment en fait il y a plusieurs
surtout
phénomènes.
Surtout les balades canines.
C'est ça. Plusieurs vérités coexistent en réalité. C'est que bien sûr, il y a certaines personnes qui vont vous dire sur les applications, moi j'ai rencontré que des gens charmants, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontrés. Et c'est vrai, encore heureux quand même que tout le monde finit pas en thérapie multi-traumatisée. Mais encore heureux que la vie existe et parfois la magie opère. Mais moi, je me suis quand même beaucoup intéressée à l'impact politique aussi des applications sur la société. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est essentiel. C'est quand même l'impact, le lien entre les applications de rencontres et les sphères masculinistes. Mmh. Et comment ces influenceurs masculinistes, ces hommes politiques d'extrême droite vont hameçonner, chercher les jeunes hommes qui sont un peu dégoûtés, désespérés, qui se prennent que des râteaux sur Tinder.
Mmh.
Et du coup, qui se retrouvent dans une espèce d'aller simple vers l'extrême droite sans s'en rendre compte, en allant voir des contenus sur YouTube de coach en séduction, etc. Et on leur dit, en fait, les femmes, c'est ceci, c'est la faute du féminisme, si tu chopes pas.
Et c'est depuis les applis
en tout
qu'on
cas,
les envoie.
C'est un milieu qui est extrêmement poreux. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le Parquet de Paris qui a écrit un rapport sur la porosité entre les milieux de la séduction et l'extrême droite, et voire même les attentats masculinistes qui ont pu avoir lieu au Canada et ailleurs. Et ça, c'est un phénomène, en fait, qui est glaçant. Et moi, j'espère, s'il y en a ce soir qui nous écoutent, des jeunes hommes qui peuvent être tentés d'aller vers ces milieux, j'ai envie de leur dire, ne vous trompez pas, mes amis. Ce n'est pas le féminisme, c'est pas nous, les femmes, qui sommes des personnes vénales et atroce. C'est à la fois le patriarcat, c'est à la fois le capitalisme et le business qui veut faire de notre sensibilité, de notre ouverture à l'amour une faiblesse pour se faire du business dessus. C'est ça vers lequel il faut lutter et venez avec nous. Ne cédez pas à ces sirènes sombres.
Et probablement quelque chose qui rassemble là pour le coup les hétéros et la communauté queer, parce que je suis sûre que vous trouvez aussi des choses comme ça sur Grindr, non ?
Sur Grindr, de toute façon, il y a une violence qui est banalisée depuis longtemps, très décomplexée. Après, ceci, il y a quelque chose de différent que sur Grindr, c'est ok aussi d'enchaîner les rencontres parce que ça renvoie finalement à tout un mode de rencontre qui est la rencontre sexuelle sans séduction et peut-être sans but. Donc c'est il y a un peu moins cet aspect d'enchaînement est moins difficile. Cela dit, il y a un phénomène d'usure et il y a aussi pareil des discriminations, il y a des inégalités et il y a aussi il y a des gens qui arrivent à tout sur Grindr et des gens qui sont complètement marginalisés et en fait souvent, les marginalisés, c'est les mêmes. C'est ceux qui n'ont pas les attributs sociaux d'être blancs, minces, musclés, sportifs, etc.
Et surtout sur Grindr, dites-moi si je me trompe, il y a quelque chose aussi complètement décomplexé du côté raciste. De dire, moi, je ne veux pas être avec telle personne qui vient de tel pays. C'est vraiment
C'est-à-dire que pendant à peu près 10 ans, ça s'est un peu calmé, mais sur Grindr, il y avait des profils décomplexés qui disaient, par exemple, pas de noir, pas de gros, pas d'asiatique. Maintenant, je dirais que les plus discriminants, ils arrivent à tourner ça de manière positive, c'est-à-dire pour les sportifs seulement, pour les caucasiens, enfin ça quand même on l'a vu, les caucasiens.
Toujours aujourd'hui, caucasiens, etc.
Toujours aujourd'hui, ça arrive encore, c'est un peu plus discret, mais c'est toujours encore là, et en tout cas c'est une discrimination à bas bruit qui est qui est rampante et qui est prégnante tout le temps, quoi.
Frédéric a 37 ans, il nous écrit sur WhatsApp et il nous dit « Pour ma part, moi je plébiscite depuis des années les applications de rencontre. Je suis un grand timide, n'ayant jamais abordé de femme de ma vie. Je me vois mal le faire, que ce soit à court ou à long terme, de par ma timidité, mais également parce que je me sens gênée. Je sais par mon entourage que les femmes sont constamment importunées du matin au soir et je ne me vois pas aller dans un bar, dans la rue, aborder une femme de façon tout à fait courtoise, même si je sais que je le serais, et même si je sais aussi surtout que je serais l'énième homme à l'importuner. » En fait, je trouve ça touchant, le message de Frédéric, Judith Duportal, parce que non seulement, effectivement, il est très timide, donc effectivement, ça l'aide à faire un premier pas qu'il ne ferait jamais, et puis surtout, il est paumé dans les années 2020 qui sont les nôtres aujourd'hui, paumé dans la relation qu'on peut avoir aujourd'hui entre hommes et femmes.
Bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose de... Oui, c'est très touchant ce qu'il dit, et c'est vrai qu'il y a toujours eu même des rencontres épistolaires avant les rencontres en ligne, cette idée que parfois c'est plus facile de passer par l'écrit, ou parfois on est plus à l'aise à l'écrit, ou... et donc oui, et en fait, le problème, c'est qu'un homme comme Frédéric, aujourd'hui, il est noyé dans un océan de profils qu'on doit évaluer en 4 secondes. On n'aura pas le temps, on aura moins de temps que de... Là, ce message, on ne pourra même pas l'écouter, on ne pourra pas lire un texte de cette longueur. Par contre, pour revenir, oui, sur le malaise, on va dire, dans la séduction, moi, ça m'attriste que ce soit ça qu'on retienne du mouvement féministe de ces dernières années, que ce soit ça qu'on retienne de MeToo, de dire on n'a plus le droit de venir nous parler, mais c'est pas ça, on veut plus se faire agresser.
C'est très clair, mais des messages comme ça, il y en a.
Mais je sais, et j'en entends aussi tout le temps, et j'ai envie de. Je ne sais pas comment dire. On sait faire la différence. L'immense majorité des femmes savent faire la différence entre une approche polie, gentille, courtoise et quelqu'un qui vous attrape les seins ou les fesses. Enfin, quand même, ce n'est pas la même chose. Et j'espère, en tout cas, moi j'ai un fils, et pouvoir lui apprendre à faire cette différence et que ce soit clair et net et qu'il n'ait pas peur d'approcher ni les femmes, ni les hommes, ni personne, et qu'il sache lire aussi dans les yeux ou dans le langage corporel ou entendre quand on lui dit non.
Alors après, il y a le fameux algorithme, effectivement, qui décide aussi de beaucoup de choses. Ça, on a appris à le connaître. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours le cas que l'algo envoie notamment les hommes chez les hétéros vers des femmes qui sont moins bien payées, qui sont moins diplômées, qui sont plus jeunes, et que l'algorithme, de toute façon, fonce vers les stéréotypes et les stéréotypes de genre, les stéréotypes de tout, en fait, dès lors qu'on s'y inscrit.
Ce que j'avais révélé dans mon livre « L'amour sous algorithme », l'existence d'un Hello score, donc d'un score de désirabilité sur Tinder qui était basé sur les critères littéralement du patriarcat, qui faisait en sorte de matcher les hommes hétéros avec des femmes qui étaient soit moins riches, soit moins éduquées, soit plus jeunes. L'idée, c'était de faire en sorte que l'homme garde la main mise, enfin le dessus sur la femme. C'était la formule mathématique du patriarcat. Comme mon livre est sorti, Tinder a annoncé ne plus utiliser le Hello score. En revanche, on ne sait pas aujourd'hui par quoi il est remplacé. Donc c'est toujours la boîte noire des algorithmes. Et donc on ne sait pas sur quels critères et proposer tel profil. J'ai lu aujourd'hui dans le Guardian une nouvelle qui m'a glacée. C'est qu'il y a un homme là qui vient d'être condamné à 138 ans de prison aux États-Unis pour des multiples viols. Et il se servait des applications de Hinge pour trouver ses victimes. Et des dizaines de femmes avaient alerté Hinge qu'il les avait agressées. Son profil n'avait jamais été retiré. Il avait même été mis en avant par Hinge. Il était featured, comme on dit. Donc il était mis en avant. Et donc le fait qu'il n'y ait aucun contrôle sur ces algorithmes et sur quels profils sont mis en avant, en fait, c'est même pas, hein, c'est au-delà d'un danger politique, c'est un danger pour notre sécurité.
Voici Johan qui nous appelle. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à vos invités. Oui, alors moi, j'ai rencontré ma compagne, là, ça fait 10 ans aujourd'hui, 13 février, que je l'ai rencontrée. Alors moi, je l'ai rencontrée par l'algorithme de la vraie vie, j'étais dans une association. Et en fait, je suis quelqu'un d'hyper timide, enfin, j'ai 29 ans, donc j'ai grandi avec Internet et tous les outils qui ont découlé d'Internet. Et pourtant, pour moi, c'est inconcevable de passer par les applis, parce que j'ai beau être timide, être un peu geek, et alors que j'ai des amis que j'ai rencontrés sur Internet. Mais juste aujourd'hui, voilà, si je devais rencontrer ma compagne, j'aurais sûrement le même coup de foudre, mais je ne serais sûrement pas allé la voir dans la rue. Et même s'il en faut pour tous les goûts, toutes les pratiques, moi, j'ai eu énormément de mal à appréhender ça. J'ai mon meilleur ami qui a rencontré sa conjointe sur une appli de rencontre. Ils ont des enfants aujourd'hui, ils sont hyper heureux et c'est parti pour durer. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment inconcevable de passer par ces applis-là parce que rien n'enlève
soit si on met ce qu'on veut, hein, le destin, le hasard, est-ce que je vous
le disais, karma.
et ce que je vous disais, de, si je rencontrais aujourd'hui ma conjointe dans un bar, je suis persuadé, vu ma timidité, que je ne serais pas allé la voir. Quoi.
Merci beaucoup pour votre appel, Johan. Après, ce que je trouve formidable, et ça c'est la vie, Thibault Lambert, on se dit toujours que si, pour certains, il y a une facilité sur l'appli, parce qu'effectivement, on va matcher des gens, on va chercher un profil aussi qui nous ressemble et des centres d'intérêt. Et en même temps, on se dit aussi qu'une rencontre fortuite, il n'y a rien de mieux que d'avoir zéro point commun et d'en découvrir au fur et à mesure, sans avoir d'abord été chercher est-ce qu'on a lu les mêmes choses, est-ce qu'on a vu la même chose, est-ce qu'on pense vraiment les mêmes choses.
Bien sûr, et toutefois, je trouve que en fait, c'est un mythe quand même, le mythe du ça tombera dessus quand tu t'y attends le moins. C'est un mythe qui peut faire un petit peu mal.
Ouais, c'est le mythe du prince charmant, nous on en est revenu.
C'est le mythe du prince charmant. Non, ce qui est important, je trouve, c'est qu'il faut quand même garder en tête qu'on n'a pas tous le même rapport à la solitude. Et qu'il y en a qui peuvent, en fait, être très patients pour faire une rencontre. Ouais. Et qu'il y en a, ils veulent justement faire des rencontres rapides. Et pourquoi ils se jettent dans ces algorithmes et dans ces applis? C'est parce qu'ils veulent trouver quelqu'un. Parce que c'est pas supportable, forcément, d'être seul. Quoi.
Et ça dit quelque chose de nous, quand même, dans ces années-là que nous sommes en train de vivre. Effectivement, quand on n'a plus cette patience-là, quand on n'a pas envie, ou alors qu'on se dit, comme beaucoup de nos auditeurs, mais qui peut les blâmer, attendez, mais j'ai les enfants, j'ai le boulot, donc ça ira plus vite. Enfin, ça parle aussi de nos vies, quand même. Oui. Et on se dit qu'au fond, si on ralentit la vie, on ralentit l'appli. Enfin, je veux dire, ça marche avec. Hein.
Bien sûr, ça parle de nos vies. En fait, ça parle de notre grande solitude. Parce que pour qu'on en arrive à se dire, bah voilà, finalement, c'est mieux que rien. Bah, d'accord, mais enfin, ça veut dire qu'aussi, on manque d'espace où se rencontrer. Ça, c'est depuis le Covid. Ça, c'est les fréquentations, que ce soit des restaurants, des bibliothèques, des théâtres, etc. Je crois pas que ce soit revenu au même niveau. Non. Et du coup, on a.
D'ailleurs, il y a eu un pic des applis pendant le Covid qui était phénoménal et qui est retombé immédiatement derrière.
On manque. Mais ça, c'est d'ailleurs la tragédie de notre séquence politique. On manque d'endroits où se rencontrer, ou s'engueuler, ou rencontrer des gens différents, ou parler avec des gens qui pensent pas exactement comme nous. Et aussi, bah, du coup, dans ces cadres-là, il pourrait y avoir parfois se draguer, se choper, évidemment. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous a été dérobé de terrible, et à tous les niveaux de notre vie, c'est une amputation presque.
Et puis, il y a aussi ce phénomène que, peut-être que Judith me contredira, mais quand on se met en couple, on se coupe de ses amis. C'est-à-dire que du coup, l'âge avançant, les célibataires se sentent de plus en plus seuls, parce que il y a aussi un retrait, finalement, un rétrécissement du cercle social, parce que beaucoup se replient sur le foyer.
Mais c'est pas pareil, ça, sur les applis. C'est effectivement beaucoup plus difficile de rencontrer des gens passé 40 ans, passé 45, encore plus après, 55, etc. Est-ce que c'est pas tout aussi difficile sur les applis, de toute façon?
La trentaine, c'est une décennie noire, on va dire, puis après, ça remonte un peu, finalement, et la vingtaine, c'est assez... Enfin, il y a beaucoup d'échanges, c'est assez vif.
Trentaine, décennie noire?
Décennie noire,
ça marche pas du tout quand on... la trentaine, ah, mais c'est dingue, ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est terrible. Les hommes de 30 ans, parce qu'ils veulent draguer les petites. Enfin, c'est les statistiques, hein, donc c'est toujours un peu triste. Enfin, c'est toujours un peu désespérant, mais donc ils essaient d'aller draguer les petites jeunes, ça marche pas. Les femmes de 30 ans, pareil, ça marche pas, elles se prennent
que des râteaux. Ouais, donc ça marche mieux pour les cinquantenaires que pour les trentenaires. Ah, bah très bien.
Et sur Grindr aussi, il y a des travaux sociologiques qui ont montré qu'à partir de 30 ans, on est sanctionné en raison de l'âge. C'est-à-dire qu'on a moins de chances de faire des rencontres.
Mais
et
ça revient après.
Et alors, on sait pas si ça revient après. Disons qu'après, les utilisateurs ont plus de distance par rapport à ça, ça les affecte moins, ou alors ils vont sur d'autres applis qui sont moins violentes sur ce critère-là.
Et alors voilà, et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, vous qui avez une trentaine d'années tous les deux, même pas encore vous, Thibault, que je sache, je ne vais pas donner votre âge, Judith, vous avez 18 ans, Judith. et vous parlez, en fait, vous êtes vraiment dans la tranche d'âge du traumatisme, en fait. Nos auditeurs qui nous ont appelés, les deux premiers, qui eux, s'en sortent plutôt pas mal, avaient l'une 52, l'autre 56, donc il y a un moment aussi où on a le cuir tanné, quoi. C'est ça que ça veut dire, en fait.
Et bah,
ça veut aussi dire que vous n'avez pas le cuir tanné, les amis. Non, mais vraiment, je dis ça sans plaisanter.
Mais moi, je n'ai pas connu la rencontre réelle. Enfin,
vous êtes trop jeune pour avoir...
Moi, j'ai installé l'appli Grindr à 17 ans. Je l'ai utilisée jusqu'à mes 28, on va dire. Et on va dire que j'ai fait une vraie rencontre pour la première fois à partir de 23 ans. Donc je pense que c'est un apprentissage qui est totalement différent. Moi, je suis très sensible, de par mon parcours, aux critères, aux demandes, aux exigences de chacun. Et je pense que ça m'a un peu inhibé, c'est ce que je raconte aussi dans le livre.
Ça vous a inhibé, et en même temps, vous dites que votre sexualité aurait probablement pas été la même sans Grindr, en fait. Les choses se seraient passées très très différemment.
Non, oui, ça aurait été très différent et je pense que j'aurais mis plus de temps à rencontrer. Encore une fois, c'est une histoire de patience, de à quel moment de sa vie on a le sentiment qu'on veut franchir des étapes et le rapport qu'on a à la solitude. Et puis, il y a aussi une envie de faire comme les autres. Mmh. Parce que voilà, on est dans une époque où il y a beaucoup de gens sur les applis. Ouais. Et pour Grindr, c'est vraiment un cap, c'est un élément de la socialisation gay que d'aller sur une appli comme celle-ci.
Eh bien écoutez, voilà un homme heureux, il s'appelle Régis. Bonsoir Régis.
Oui, bonsoir Fabienne.
Allez-y Régis.
Déjà juste pour vous dire que on adore vos émissions, mon ami et moi. Et juste la petite histoire drôle, c'est que voilà, Radio France connaît bien aussi, parce que ma mère et mes grands-parents, ils travaillent aussi. Donc je suis à la maison. juste pour témoigner, pour vous dire que avec mon copain, on s'est rencontrés sur Grindr il y a 4 ans. On était à Marseille tous les deux à l'époque. Et le truc drôle, c'est qu'on est nés tous les deux à Suresnes, donc on est nés au même endroit, mais on s'est rencontrés complètement dans le sud de la France. Et moi, à l'époque, j'avais 45 ans, lui, il en avait 30, donc on a 15 ans de différence. Donc oui, moi, à 45 ans, Grindr, c'est comme justement votre intervenant disait, on est plus dans la course parce qu'on est trop vieux, on correspond plus au schéma de ce que les gays recherchent sur les applications, etc. Et on s'est rencontrés pour un plan cul, hein, clairement, au départ. Et au final, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et on a fêté nos 4 ans ensemble la semaine dernière, justement.
Et j'ai envie de dire youpi, Régis, c'est tant mieux. Et on est ravis pour vous. On vous embrasse tous les deux. Ça marche, Thibault Lambert.
Mais bien sûr, ça marche. Et franchement, moi, je dis pas le contraire. Il y a plein de couples qui se sont rencontrés sur Grindr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est d'abord un plan cul. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent qui est propre à la communauté homosexuelle. C'est-à-dire que.
Et pas seulement, d'ailleurs. Hein, mais c'est non, vrai que c'est vrai.
Pas seulement,
plus probablement, mais
historiquement,
pas seulement.
Historiquement, le sexe inaugure toute forme de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se perpétue avec les applis.
Après, l'IA qui intervient là-dedans, qu'est-ce que ça va faire Je disais tout à l'heure, et c'est une réalité, on en a parlé ici même, désormais, si c'est un robot qui prend en charge le choix des profils, mais que ça se passe aussi de l'autre côté, si bien que les premiers dialogues, personne ne va savoir que deux robots sont en train de parler entre eux, mais que ce sont ceux-là qui sont en train d'essayer de matcher quelque chose. Enfin, là, pour le coup, moi, je trouve ça terrifiant. Qu'est-ce qu'on dit de ça, Judith Duportail? Il paraît qu'il y a une appli, j'ai oublié son nom, en préparant cette émission, qui est désormais gérée par une IA, qui s'appelle...
Oui, ils essayent je sais plus, il y a Bumble là, qui a fait une conférence pour annoncer que ça allait être la prochaine innovation. Moi, je suis assez sceptique. J'y crois pas tellement qu'on va avoir notre assistant virtuel qui va aller chercher pour nous des profils et je sais pas, est-ce qu'ils vont nous en sortir 5 parce que j'y crois pas.
C'est comme un chasseur d'appart qui est un chasseur de profils, ça ressemble vraiment à ça.
J'y crois pas trop parce que je pense que quand même... c'est déjà ce sur quoi on accroche sur un profil, c'est peut-être il va falloir, ou alors peut-être je suis naïve, mais il va falloir apprendre du coup à l'expliquer à un robot en disant j'aime je sais pas les moustachus, les, enfin c'est quand même finalement
ça va être... vont se débrouiller tout seuls, hein.
Ils vont se débrouiller tout seuls et vont voir qui on like.
Je pense que l'IA va comprendre extrêmement vite. C'est on se terrifie de ça, Thibault Lambert, ou pas?
Je sais pas si on se terrifie, moi je pense que on garde quand même notre libre arbitre et en fait même si l'IA nous sort un profil qui est censé nous plaire, je suis pas sûr qu'en fait on plongerait dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait ça dépend de tellement de choses, ça dépend aussi du contexte et de la recherche, parce qu'en fait il y a des intentions qui sont vraiment plurielles sur les applis en fonction des moments. Enfin, je veux dire, que ce soit chez les gays, chez les hétéros, on peut aller sur Tinder à un moment pour faire une rencontre d'un soir et le lendemain on cherche l'amour. Donc en fait je sais pas comment une IA elle peut jauger tout ça.
On a ce message sur WhatsApp qui dit « Je n'ai utilisé une appli qu'une fois, la méthode traditionnelle de la vie de tous les jours en parallèle, mais je comprends la facilité qu'elles ont apportée. » Elle dit ceci « Les applications sont la mouche sur le visage ou le décolleté des soirées mondaines des siècles derniers. Elles affichent les intentions. »
Mais non. Alors là, je suis tellement pas d'accord. Enfin, ce serait tellement plus simple. C'était les gens.
Certains, au moins, on peut afficher son intention. Mais
il y a tellement de mensonges et de manipulations. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on vit pas sur la même planète. Là, tout le monde est en train de dire Tinder, c'est génial et tout. Allez voir ce que c'est. Allez y passer une demi-heure. Vous allez voir déjà combien c'est vide les conversations. Pourquoi? En fait, moi, j'aimerais bien avoir une IA. Parce que déjà, en fait, c'est plus rigolo de parler avec ChatGPT que de parler sur Tinder. Enfin, franchement. Et puis le fait qu'on affiche ses intentions, je pense que c'est vraiment à l'inverse de ce qu'est la réalité. Sur les applications de dating, il y a combien de personnes qui se font avoir dans des arnaques, en disant soit des arnaques amoureuses, en disant je cherche une relation, en fait non, je veux juste coucher avec toi, bon certes, c'est vieux comme le monde, mais c'est pas pour autant que c'est agréable. Puis après, il y a des arnaques quand même tellement sophistiquées, que ce soit des arnaques financières, des arnaques qu'on vous envoie à l'autre bout du monde, enfin, non, mais wake up, ouvrez les yeux là, vous n'êtes pas dans la vraie vie.
Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Il nous reste peu de temps, Nathalie, mais on a du temps pour vous, allez-y.
Je suis inscrite depuis 3 ans sur un site. J'ai pas encore fait mouche, mais j'ai rencontré des gens sympas avec qui j'ai dîné au but un café. Par contre, très rapidement, il y a des critères pour moi qui sont incontournables, parce que je pourrais pas envisager ma vie avec quelqu'un qui partage pas certains de mes
conditions. C'est pour qui vous votez,
valeurs. Non. Ouais, exactement.
Ah, c'est vrai, mais j'en étais sûre.
La tendance politique, l'homophobie, le climat, le féminisme. Pour moi, c'est vraiment des choses. Et pour le moment, je suis jamais encore tombée sur quelqu'un qui m'a dit je vote RN, je suis climato-sceptique, etc. Mais j'ai besoin.
Si vous le trouvez, mettez-le sous verre, parce que là, on fera un sujet. J'imagine quelqu'un qui arrive en disant bonjour.
Ah oui. Mais, pour moi, je pourrais pas envisager une relation avec quelqu'un qui a pas au moins ses valeurs. Il y en a d'autres, mais ça, c'est.
Merci, Nathalie. Thibault Lambert. Dans l'idée d'afficher la couleur, c'est ça aussi que ça veut dire, en fait. Au moins, les choses sont à peu près claires sur des choses basiques dès le démarrage, pourquoi pas.
Oui, ça c'est le propre. Ça dépend des applis. Il y a des applis qui se sont fait une spécialité dans le fait que plus on détaille certains aspects de notre vie, nos opinions, plus on va trouver quelqu'un. Derrière, il y a les intentions, il y a le profil et il y a le comportement sur l'appli. On peut avoir quelqu'un qui a toutes nos idées. Moi, ça m'est arrivé sur d'autres applis plus romantique, de trouver un mec qui, sur le papier, me correspondait, mais sauf que derrière, il parle pas, il n'y a pas la conversation. En fait, juste au départ, la rencontre, c'est quand même deux humains qui se parlent.
Il nous reste 8 secondes seulement, Judith Duportail, pour que vous y retourniez. Il faudrait quoi ?
Non, j'y retournerai pas pour rien au monde.
écoutez, ce sera la phrase de conclusion. Merci à tous les deux, merci à tous pour vos nombreux appels. Et merci à la technique ce soir. Il y a Céline Guéribi et Florian Durimini. La réalisation de toute cette jolie semaine était signée Thomas Langlin. Le rédacteur en chef s'appelle Philippe Lefébure et Frédéric Barrère aussi aujourd'hui. La programmation Pierre de Certaines, Amaury Baucher, Nathalie Poitevin. Au site et à la doc, il y a Julie Delta et les petits bateaux.
Pourquoi les araignées aiment bien dans le noir ? Merci beaucoup.
De rien, la réponse dans 3 minutes.